Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Arts en ma compagnie et surtout celle des femmes artistes créatrices dont je me fais le porte-parole. Alors après un long voyage à travers le temps, nous sommes arrivés au début du XXe siècle, à l'époque de transformations notables, sociétales, et en lien avec ce renouveau, bien évidemment l'art, lui aussi, n'est pas en reste. Alors parmi les courants qui relèvent du modernisme, de l'avant-garde, nous avons plus ou moins évolué dans différents milieux, pays également, proches ou lointains, autres qu'européens, comme le Mexique, le Brésil, en compagnie d'artistes femmes, créatrices de toutes nationalités, qui ont représenté également les influences artistiques diverses, comme le cubisme, le fauvisme. Les unes étaient influencées par l'expressionnisme, les autres par le surréalisme, et c'était aussi bien des peintres, des plasticiennes que des poètes écrivaines. Et nous avons invité à les rejoindre nos musiciennes plus créatives que jamais, qui me permettent, grâce à leur composition musicale, de reposer ma voix afin d'être prête à refaire quelques présentations, je l'espère, pour votre plus grand plaisir, autant que pour votre culture personnelle. Alors, une figure remarquée à l'époque, c'est celle de Georgia O'Keeffe, née en 1887 aux États-Unis, et qui est une artiste incontournable de l'art du XXe siècle et considérée comme une des peintres majeures du modernisme. Or, c'est quelqu'un qui a perçu très tôt sa vocation de peintre et qui suivra une formation conséquente à l'École des Beaux-Arts de New York. Or, la rencontre marquante de sa vie, à la fois amoureuse et artistique, est en la personne du photographe galeriste Alfred Stieglitz, avec qui elle vivra une passion plutôt torride, mais qui l'ancrera solidement dans son travail d'artiste. Ce qui ne l'empêchera pas d'être influencé par d'autres artistes, notamment par les théories du peintre-graveur-photographe américain Arthur Wesley Dow, qui sont en rapport avec la façon d'exprimer son inspiration, son ressenti au travers d'un art de la composition. Et d'autre part, un autre photographe nommé Paul Strand, spécialisé dans la photographie d'objets tellement rapprochés qu'ils forment un ensemble abstrait, influencera également Georgia O'Keeffe, qui fera la même chose dans sa peinture de fleurs. Alors, je vais vous lire maintenant ce qu'elle disait pour que vous compreniez mieux sa méthode, sa façon de fonctionner et de peindre. Alors, je vous le lis. « Je sais que je suis incapable de peindre une fleur. » Je ne sais pas non plus peindre le scintillement du soleil sur le sable par un beau matin d'été, mais j'espère pouvoir, à travers la couleur, transmettre mon expérience de la leur ou l'expérience que la fleur rend importante pour moi à un moment donné. » Alors vous constatez ici qu'est proposé un nouveau mode de reproduction de la réalité, d'autant plus que Georgia O'Keeffe, au travers d'un petit détail d'une fleur, évoque sa totalité et que cette peinture fait sens, car nous est montré ici davantage ce qui est ressenti que ce qui est vu. Et elle continuera de chercher des sources d'inspiration tout au long de sa vie, et notamment en s'imprégnant des paysages du Nouveau-Mexique, principalement son désert avec ses formes, ses couleurs, ses lumières. Et survivant à son mari Alfred Stieglitz de 23 ans son aîné, elle passera le reste de sa vie à voyager dans de nombreux pays et s'éteindra à l'âge avancé de 98 ans. Alors je me rends compte que je n'ai pas parlé de Lee Miller, une photographe américaine née en 1907, qui fut également modèle, mannequin, et qui étudia le théâtre et les arts plastiques à l'École nationale des beaux-arts de New York, et qui rencontra à Paris Man Ray, le célèbre photographe avec qui elle aura une liaison autant que des relations artistiques et professionnelles. Alors elle aussi, par l'intermédiaire de Man Ray, entre autres, s'immergera dans le milieu des surréalistes. Bon, ce qui ne l'empêchera pas de quitter Manray un peu trop jaloux, à ce qui paraît, pour repartir à New York, ouvrir son propre studio de photos, se mettre en valeur avec exposition personnelle, et par la suite, elle convolera avec un riche homme d'affaires égyptien qui la conduira au Caire, si bien qu'elle pourra exercer ses talents de photographe sur des sites et dans le désert. Alors elle lâchera tout pour revenir à Paris, se mêlera aux surréalistes, deviendra modèle, et notamment de Picasso, puis l'épouse du peintre poète surréaliste anglais Roland Penrose. Alors la guerre 39-40 se déclare et c'est là qu'elle deviendra correspondante de guerre dans l'armée américaine et publiera ses photos dans le célèbre magazine Vogue. Bon, des photos de soldats, des camps de concentration qui paraîtront aussi dans le magazine American Life. Et elle souffrira d'ailleurs par la suite de dépression, de stress post-traumatique, ce qui était le cas de soldats en confrontation avec les horreurs de la guerre. Bon, elle se sera distinguée quand même en tant que photographe, car un cliché la fera particulièrement remarquer, puisqu'en visite à Munich avec son collègue photographe correspondant de guerre, David Sherman, en charge de photographier l'appartement d'Hitler, c'est là qu'elle se mettra en scène dans la salle de bain, assise, dans la baignoire d'Hitler, en suggérant la nudité, sans la montrer, avec le portrait du dictateur sur le rebord de la baignoire et les grosses chaussures de soldat devant. Alors, ce cliché surréaliste, hein, peut-être, pour conjurer le mal, faire rentrer Hitler dans une banalité humaine qui détruit le côté sulfureux du personnage. Hein. Bon, c'est possible. En tout cas, après la guerre, avec son mari Roland Penrose, elle s'installera en Angleterre pour décéder d'un cancer à 70 ans. Alors pour rester en compagnie des Américaines, je vais vous faire écouter maintenant une musique d'une compositrice américaine née en 1927 nommée Marie-Jeanne van Apeldoorn. Sa date de naissance fait que nous rentrons un peu plus dans le XXe siècle. Nous en avons déjà écouté du XIXe siècle, comme Mamie Beach par exemple. Alors, qui est Marie-Jeanne van Apeldoorn? Bon, vous constatez d'après son nom qu'elle est d'origine hollandaise, immigrée aux États-Unis. C'est déjà quelqu'un qui est doté d'une maîtrise en musique et d'un doctorat en théorie musicale et d'autres diplômes qui font qu'elle apparaît un peu comme une intellectuelle. Elle a enseigné toute sa vie la musique. Elle s'est aussi ouverte à la nouveauté en s'intéressant notamment à la composition de musique sur ordinateur. Elle a composé de nombreuses œuvres pour orchestre, musique de chambre, piano, pour voix et chorale, et a été produite à l'international. Et elle est d'ailleurs décédée récemment en 2014. Mais place maintenant à la musique de Marie-Jeanne van Apeldoorn, et je vous propose un extrait d'une sonatine pour clarinette et piano. Thank you. Voilà pour Marie-Jeanne Van Apeldoorn. Alors, je n'ai pas mentionné Marguerite Thompson Zorach, une autre américaine qui est née en 1887. C'était une artiste plutôt éclectique puisqu'elle était peintre, peintre mural, designer textile, xylographe. La xylographie étant un procédé d'empreinte d'une image qui peut être reproduite plusieurs fois. Elle appartenait principalement au mouvement artistique du fauvisme. Elle aussi suivra les cursus habituels des artistes étrangers débarquant à Paris pour y étudier. Ceci dit, de nombreux voyages inspireront ses créations colorées. Elle collabora aussi étroitement avec son mari, le peintre-sculpteur William Zorach, rencontré à Paris, et avec qui elle restera liée pendant plus de 50 ans, où ils formeront tous les deux un couple aussi bien soudé en amour qu'en art. Si c'est pas beau tout ça. Alors il s'agit là encore d'une Américaine. La plupart de celles-ci, comme bien d'autres étrangères, et vous l'avez entendu lors des précédentes émissions, sont passées par Paris, que ce soit des femmes de lettres, des peintres, des sculptrices ou des décoratrices. Alors, ce n'est pas forcément le cursus de la peintre américaine Isabel Bishop, née en 1902, qui, elle, s'est surtout distinguée par sa peinture réaliste, inspirée des scènes urbaines de New York. Alors, elle se préparait à une carrière de dessinatrice commerciale, qui mêle l'art à la technique, au service de produits, d'objets conçus pour la vie quotidienne et destinés à être commercialisés, puisqu'il s'agissait de design. Et elle a commencé par suivre des cours à la School of Applied Design pour femmes, et elle passera également par la Art Students League de New York. Je fais des efforts pour prononcer. Bon, qui est une école des beaux-arts, puisqu'elle se détachera du design pour développer sa pratique picturale. Alors, influencée par la peinture hollandaise et flamande, notamment par Rubens, elle développe une peinture personnelle dont les sujets sont rapportés des scènes de la rue. Alors, sujets en mouvement, notamment des personnages féminins. Alors, j'ai regardé sa production, on recense son inspiration issue de la peinture flamande au travers des formes, des couleurs, des traits, mais en même temps elle témoigne de la réalité de son temps par le choix de personnages contemporains américains qu'elle va chercher dans les scènes de rue de New York et dont elle capte le mouvement et l'expression. Alors elle avait un excellent coup de crayon et s'est également intéressée aux techniques de gravure puisqu'elle était également graveuse. Et en outre, elle a illustré une édition de roman de Jane Austen, intitulée « Orgueil et préjugés », qui est un auteur femme que j'avais cité et abordé dans « La Voix des Arts ». Et sinon, elle a exposé dans de nombreuses galeries, musées, académies. Elle a aussi enseigné en école d'art. Elle fut même en 1946 la première femme à un poste de direction, puisqu'elle était vice-présidente de l'Institut National des Arts et des Lettres. Et on peut dire qu'Isabel Bishop a poursuivi une belle et longue carrière qui a été récompensée par des prix. Et par exemple, le président Jimmy Carter lui aurait décerné en 1979 un prix d'excellence pour ses réalisations artistiques et elle a été distinguée comme docteur honoris causa et aurait reçu une médaille d'or de l'Académie américaine des arts et des lettres. Et de plus, elle était engagée à la cause féminine, elle aussi, comme tant d'autres, et elle aurait dit « Je ne voulais pas être une femme artiste, je voulais juste être une artiste. » Alors malgré le fait que nous arrivons presque au milieu du XXe siècle, j'ai quand même le sentiment d'être toujours tirée en arrière par des femmes artistes qui naissent plus ou moins entre le XIXe siècle et le XXe. Car beaucoup de femmes, nées peu après le milieu du XIXe siècle, ont traversé une bonne partie du XXe siècle en amorçant ce fameux tournant vers la modernité. Alors il y en a quelques-unes que je n'ai pas mentionnées, et sans trop rentrer dans le détail de leur destinée et de leur parcours, j'ai quand même envie de les citer, ne serait-ce que pour vous démontrer qu'elles étaient présentes et pleinement actives. Alors, des femmes du Nord, je n'en ai pas beaucoup parlé, je pense aux Finlandaises, aux Suédoises, aux Hollandaises, à part quelques femmes de lettres dont je vous avais déjà parlé. Alors, les peintres que je rencontre à cette période de transition 19e-20e sont surtout nés au 19e siècle. Alors, j'avais déjà parlé d'Eline Danielson dans La Voix des Arts, car elle était née au 19e siècle en 1861 et avait emprunté ce même chemin d'artiste voyageuse pour apprendre et ou se perfectionner dans d'autres pays que le sien, et avait débarqué comme tant d'autres à Paris. Alors, je l'ai présentée comme une artiste figurative qui peignait des scènes de la vie quotidienne, des portraits. Elle était considérée comme une anticonformiste, sans doute due en partie à son mariage avec un peintre italien de 13 ans, son cadet, ce qui a dû choquer son monde à l'époque, où la différence d'âge était dans les normes, dans le sens homme plus âgé, mais non l'inverse. Et Eline Danielson s'était installée ensuite définitivement en Italie. Alors nous allons refaire maintenant une petite pause musicale encore, en compagnie d'une œuvre de Henriette Bosnan. Il est temps pour moi que je m'arrête, je vois que je m'accroche un peu aux mots. Donc c'est une néerlandaise née en 1895 à Amsterdam, dans une famille de musiciens. Son père étant premier violoncelliste à l'Orchestre Royal du Concert Gebo, le plus important orchestre symphonique néerlandais, et sa mère professeure de piano qui lui enseignera l'instrument. Et elle enseignera elle-même le piano à 17 ans, et à 19 ans, elle y composera et sera jouée en public. Et ensuite, elle se produira en Europe, progressera dans son art pendant quelques années, jusqu'au décès de son fiancé, un violoniste nommé Francis Koen, ce qui l'aurait marqué car elle restera ensuite quelques années sans composer. Et de plus, en partie juive, elle sera confrontée au nazisme dans les années 40, ce qui l'empêchera aussi d'exercer. Puis elle reprendra quand même les concerts, la composition, et sera souvent en collaboration avec une cantatrice française nommée Noémie Perugie, qui l'aurait inspirée pour le chant. Et elle décédera précocement d'un cancer à 56 ans. Alors elle aura composé des sonates, des concertos, beaucoup seront dédiés au violoncelle et au piano, et je vous propose maintenant d'écouter un extrait de String Quartet. Thank you. Alors, d'autres Finlandaises ont emboîté le pas d'Elin Danielsson, citée avant notre petit intermède musical, ou en sont contemporaines, comme Hélène Schwerbeck, née en Finlande en 1862, donc aussi au 19e siècle. Elle est d'origine suédoise, elle aussi dite précoce, s'entêtera à développer sa peinture, soutenue dans ce sens par un membre influent de la Société des Beaux-Arts de Finlande, Adolf von Becker. Il est dit que la Finlande plaçait hommes et femmes sur un même pied d'égalité. Alors c'est quand même à signaler à cette époque. Alors en tout cas, c'est munie d'une bourse gouvernementale qu'elle poursuivra, elle aussi comme tant d'autres, sa formation en France, à l'Académie Calarossi de Paris et à l'école de Barbizon en Normandie. Alors elle montre une peinture assez innovante en se détachant du style habituel de la peinture finlandaise et en expérimentant techniques et supports divers. On sent même parfois une légère oscillation vers l'abstraction, même si elle se maintient dans le figuratif, et aussi une certaine familiarité avec l'expressionnisme, surtout pour figurer la vieillesse. Bon, elle n'est pas loin non plus du fauvisme, bon, c'est-à-dire que l'on pressent, selon les tableaux, que toutes ses influences l'ont interpellée. Alors, c'est une adepte du naturalisme, par son souci de peindre la réalité, du plénérisme, du synthétisme. Alors vous allez peut-être vous demander ce qu'est le plénérisme. Eh bien, c'est peindre des scènes extérieures avec des techniques propres à rendre ce que la clarté du jour apporte en ombre et lumière. Quant au synthétisme, je vais reprendre la définition du Larousse et je vous la lis. Technique et esthétique picturale de la fin des années 1880 fondée sur l'usage d'aplats de couleurs vigoureusement cernés. Et c'est le peintre Maurice Denis qui aurait résumé le synthétisme de cette manière, et je vous le lis aussi. Il est bon de rappeler qu'une image, avant d'être un cheval de bataille, une femme dénudée ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé. Alors là, j'ai pris des définitions simples et généralistes, même si la peinture est un petit peu plus compliquée que cela. Mais vous pouvez toujours vous pencher davantage sur le sujet, car c'est toujours intéressant, pour qui aime la peinture ou a envie de la pratiquer, d'approfondir pour en tirer un bénéfice de toutes ces connaissances. Alors voilà pour le petit intermède technique pictural, aussi pour comprendre quelles étaient les préoccupations de ces artistes, ici en l'occurrence de cette peintre finlandaise nommée Hélène Schwerbeck. À noter toujours que la grande majorité des artistes, et donc les femmes artistes, celles qui le peuvent, passent par Paris pour se former et se perfectionner. Alors je ne peux pas passer à côté d'une autre finlandaise, même si elle aussi est née au 19e siècle, en 1869 très exactement, surtout qu'elle est considérée comme l'une des plus importantes peintres modernistes finlandais, et donc qui aborde le tournant de la modernité, et il s'agit d'Hélène Teslef. Or, sa peinture est classée dans la catégorie expressionniste, ce type de peinture figurative dont la facture, par l'accentuation des traits et de la couleur, est propre à susciter une émotion forte, souvent peu confortable. Hélène Teslef est issue d'une famille d'artistes, de peintres, de musiciens. Elle étudiera avec divers professeurs et suivra un apprentissage en dessin sérieux à l'Académie finlandaise des Beaux-Arts d'Helsinki, pour ensuite, elle aussi, passer par Paris à l'Académie Calarossi, comme vous le savez, qui est une école parisienne célèbre, dite de la Grande Chaumière, fondée par le sculpteur Calarossi. Alors je rappelle et répète ce qui plusieurs fois a été dit lors des émissions précédentes sur les écoles, la définition des mouvements picturaux, etc., histoire de vous rafraîchir la mémoire. De temps en temps, je pense que c'est nécessaire. Alors elle remportera des succès et ses œuvres maintenant sont exposées dans de grands musées finlandais. Alors elle a été influencée par le symbolisme, l'impressionnisme, elle peindra surtout des portraits et des paysages s'inspirant de ses nombreux voyages. Elle peindra jusqu'à la fin de sa vie, qui surviendra quand elle aura 85 ans. Auparavant, elle aura été récompensée pour son travail, notamment en 1951, à l'âge de 82 ans, par la médaille Pro Finlandia de l'ordre du Lion de Finlande et décernée par le président de la République aux artistes finlandais. Enfin, pour résumer le travail de toutes ces femmes, tout au moins ici, de celles présentées dans cette émission, ce que je constate en regardant leur production, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des femmes qui savaient tenir crayon et pinceau, c'est-à-dire dessiner, peindre, et nous emmener dans leur monde. Bon, moi je sais que je reste toujours admirative du savoir-faire, que la persévérance dans un art développe, le tout combiné en outre à d'autres paramètres artistiques, pour nous faire accéder à d'autres dimensions. Et ce seront les mots de la fin de cette émission. Nous ferons encore quelques voyages à l'étranger la prochaine fois. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous remercier de votre écoute, en espérant que le sujet, encore une fois, a été nourrissant pour vous. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.